Soyez les bienvenus pour cette conférence sur la question de l'exercice de l'autorité dans l'entreprise et le désir aussi de grimper dans ses responsabilités dans l'entreprise ou dans le monde en général. Vous êtes dans des associations, dans des administrations, je ne sais pas où est-ce que votre vie professionnelle vous amène, mais de réfléchir en tout cas à cette question de l'autorité et en quoi l'autorité est aussi compatible avec l'ambition. En quoi l'ambition qui traditionnellement est mal vue, j'allais dire, dans notre vision du monde catho, voilà, être ambitieux, c'est plutôt d'une personne ambitieuse, par exemple, c'est négativement connoté. Hein, alors que bon, c'est parce qu'on voit, il a les dents qui règlent le plancher, voilà, toutes ces formes d'expression qui font que. Et je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre regard à porter là-dessus? Voilà, donc c'est un peu là-dessus, moi j'aime bien, avant de rentrer dans la vie religieuse, j'ai travaillé dans le monde de l'entreprise, et c'est vrai que ça a été un moment intéressant, et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est très porteur, et qui, c'était d'abord une aventure humaine, donc avec d'autres enjeux, etc., mais, et pour vous, peut-être certains, vous démarrez la vie professionnelle, ou vous êtes au début de votre vie professionnelle, c'est bien d'avoir un peu une vision de, par rapport à l'autorité, par rapport à la prise de responsabilité. Comme introduction, un peu, c'est vrai que malheureusement la question de l'autorité dans l'entreprise, ne serait-ce que le mot, est parfois assimilée à une forme de souffrance. On parle pas mal du burn-out, du harcèlement, du stress, de la pression, voire de dépression. Et l'autorité au travail est rarement, ou en général, hein, mais on en entend plus parler comme un lieu de difficulté, que comme un lieu de progression personnelle. Et alors que l'origine du mot autorité, c'est tout à fait différente. L'origine du mot, ça vient de augere en latin, ça veut dire faire grandir. Mais aussi, on peut dire autorité, vous reconnaissez auteur, donc devenir l'auteur de soi-même aussi. Devenir l'auteur, donc, quand on est une responsabilité dans l'entreprise ou dans le monde professionnel, quel qu'il soit, je dis l'entreprise, parce que c'est ça qui me vient spontanément, mais ça peut être une association, ça peut être dans l'éducation nationale. Certains d'entre vous sont dans l'éducation nationale, donc ont autorité aussi sur des enfants. Donc ça, c'est assez intéressant qu'ils puissent aussi... même, j'imagine, c'est tout à fait autre chose, mais pourquoi pas adapter ce discours-là à leur réalité d'enseignant. Dire, voilà, quand j'ai une responsabilité, et certains d'entre vous l'ont, commencent à avoir des responsabilités, commencent à être dans le management, donc je trouve que c'est intéressant de voir comment on peut faire grandir la personne. Et ce qui, parfois, n'est pas si évident que ça, parce que Il y a plusieurs choses. Il y a vraiment le rapport au temps. Le rapport au temps et l'autorité qui fait que, qui est dicté beaucoup par le rapport à l'argent, qui fait qu'on ne prend pas assez soin des relations dans le monde professionnel. On ne prend pas assez soin des relations. Nous sommes à l'abbaye d'Ourscan dans un grand chantier là, qui nous emmènera jusqu'à peut-être 2025. Donc de restauration d'une partie de l'abbaye, et j'ai demandé qu'une fois par mois, il y ait une rencontre avec l'architecte pour dire où est-ce qu'on en est de la question des relations, parce qu'on sait bien, ceux qui travaillent dans le monde de la construction, qu'un chantier, qu'est-ce qui peut ralentir un chantier, etc., c'est beaucoup, c'est pas des questions économiques, c'est pas des questions techniques, parce qu'on arrive à la fin à en trouver des solutions, mais c'est beaucoup les questions humaines. Et donc de faire le point, et je trouve que ça, de ce point de vue-là, il n'y a pas de... Alors, il y a un peu l'entretien, comme on appelle ça, annuel d'évaluation, mais bon, c'est entretien annuel d'évaluation, mais qui ne dit pas entretien annuel de qualité de lien. Donc parfois dans certaines entreprises, je pense à... Peut-être des, je connais quelqu'un qui a travaillé chez Coca-Cola, il y a ce qu'on appelle un 360. Un 360, je ne sais pas si vous dites quelque chose, un 360. Un 360, c'est-à-dire que il y a un cabinet extérieur qui vient et qui interroge toutes les personnes avec lesquelles vous êtes en relation dans le monde professionnel. Je pense que ça se limite au monde professionnel. Mais bon, ça peut être aussi intéressant, du coup, d'avoir le regard des uns et des autres sur la relation que vous pouvez avoir avec le service de comptabilité, le service client, le service de ceci, ou avec les... Bon, donc, je trouve... Bon, mais je veux dire, c'est pas encore c'est pas encore établi. Et je trouve que, de même dans les familles, parce que la famille, c'est là où on apprend précisément à rentrer en relation. Il n'y a pas de rituel qui visite ou revisite la qualité des relations familiales, par exemple. Il y a certaines familles, mais peu nombreuses, ont ce qu'on appelle un conseil de famille. Vous voyez, je trouve ça pas mal. Un conseil, c'est-à-dire qu'où ils discutent de, assez jeunes, ils impliquent les enfants, comment est-ce qu'on va organiser les vacances, qu'est-ce qu'on va faire à Noël, des choses assez basiques. Mais je trouve ça intéressant d'avoir des lieux où on prend soin de la relation. Parce que qui dit autorité, dit prend soin de la relation. Et c'est là où nous, notre vision chrétienne, elle est différente des autres. Pour nous, c'est pas pareil. C'est pas juste acquérir du pouvoir, c'est prendre soin d'eux. Et donc faire grandir. Donc c'est évidemment, on connaît bien tout ce qu'on appelle l'éternelle crise de l'autorité. Hein. On passe du père au père, P-E-R-E au P-A-I-R. Hein, ce n'est plus celui qui est au-dessus, mais c'est celui qui est semblable, qui devient la référence, avec des dérives possibles dans l'exercice d'autorité, de manipulation, on parle souvent de ça aussi, comme source de souffrance au travail, et de dérives, mode affectif d'exercer l'autorité, qui au fond ne fait pas grandir non plus. Donc, avec la particularité de l'autorité au travail et de la prise de responsabilité, donc de l'ambition, c'est qu'il y a un mélange à la fois de pouvoir et d'argent. Donc c'est ce mélange-là qui est assez particulier, en tout cas dans le monde professionnel, où il y a, dans le monde de l'éducation, c'est assez différent, j'imagine, ou le monde de la santé, c'est un peu différent aussi, dans ce qui est les services publics, donc c'est pas pareil. Mais la plupart du temps, dans le monde de l'entreprise, c'est ce mélange à la fois de responsabilité qui est valorisé par l'argent. Valorisé par l'argent et qui est, voilà, c'est le fait de valoriser les choses et ce rapport à l'argent fait évidemment qui est une manière assez intéressante de travailler, de dire, bon, mais qui biaise aussi les choses. Je veux dire, est-ce que c'est le seul critère pour évaluer une personne dans sa prise de responsabilité, par exemple, hein? C'est une question. Vous avez, donc ça c'est une introduction, vous avez un peu des différents modes d'exercer le management, différents modes d'exercer la responsabilité. Hein, le premier mode qu'on pourrait, il y a quatre modes, bon, on peut en trouver d'autres, mais bon, c'est le mode qu'on pourrait appeler directif, hein, une personne qui, au fond, c'est du haut vers le bas, donc mode directif, qui fait qu'il n'y a pas assez de consultation, on verra, il manque une partie dans cette réalité-là. Il y a le mode qu'on pourrait appeler explicatif. Alors l'avantage, chaque mode a une partie positive et négative. C'est-à-dire, le mode directif, moi, vous savez où vous allez. Rien de pire qu'un chef qui ne veut pas cheffer. Ça, c'est le pire du pire. Parce que quelqu'un qui ne donne pas de direction, c'est l'abomination de la désolation, parce que c'est des personnes-là, elles laissent un service entier, voire une entreprise entière, et là aussi, c'est des entreprises, parce que c'est pas la bonne personne au bon endroit. En revanche, quand la bonne personne est au bon endroit, évidemment, ça fait beaucoup de bien, hein, surtout quand on a une dimension de foi comme vous l'avez, en tout cas une éducation chrétienne, ça peut faire encore plus de bien. Donc, la question du mode directif, il y a le mode explicatif. Le mode explicatif, c'est... d'expliciter, de faire de la pédagogie, de faire par rapport à son à sa propre manière de gouverner. Et puis le mode délégatif, on délègue les choses. Donc cette partie d'autorité que j'ai, je la transmets à d'autres, et qui fait que je me délègue. Maintenant, la délégation, ça pose des questions aussi. Il y a un côté bien parce qu'on fait pas, on n'est pas seul. Et c'est vrai que dans l'autorité, l'exercice de la responsabilité, il y a beaucoup, et vous savez bien, une certaine solitude pour ceux qui ont expérimenté ça, que ce soit dans la vie associative, dans la vie professionnelle, etc., quel que soit le style. Mais dès qu'on est en responsabilité, il y a une forme de solitude. Donc le fait de déléguer, ok, mais comment j'accompagne aussi les personnes auprès desquelles je délègue. Et puis il y a un mode qu'on appelle participatif, une sorte d'intelligence collective, qui fait que j'associe tout le monde aux décisions, etc., etc. Donc voilà, ça c'est un peu des manières quatre manières, moi j'ai vu quand j'ai fait mes recherches, d'exercer les responsabilités, le management. Mais on peut aussi, il y a d'autres manières, comme par exemple le management par le stress ou le management par la confiance. En France, quand même, je ne sais pas si c'est en France en particulier, mais je trouve pas mal, on a eu beaucoup de mal avec le télétravail. Il a fallu que le Covid arrive pour que le télétravail devienne il n'y avait pas d'autre choix. Parce qu'on est stressé, ben non, la personne elle va être feignante, elle va regarder des films en streaming, plutôt de faire son travail, etc. Alors que dans d'autres pays, c'était plus vite, volontiers développé facilement. Donc je trouve qu'il y a une forme de manque de confiance dans la délégation du travail. Alors, confiance veut dire aussi responsabilité. Comment est-ce que je relis au fond la responsabilité que j'ai pu déléguer, etc. Donc je trouve ça intéressant de dire, nous comme disciples de Jésus, pour nous c'est important d'avoir cette attitude d'être la confiance et foi, vous savez, c'est synonyme. Et donc d'avoir une certaine, et il n'y a rien de pire que quand vous avez un supérieur hiérarchique qui est suspicieux. Une personne qui est en train de vous dire, mais c'est quoi, vous faites quoi, etc., ben vous en profitez pour. Et je pense que ça, et évidemment, l'exercice de la responsabilité revisite nos blocages, revisite nos angoisses, vous voyez, revisite nos stress, nos propres faits miroirs par rapport à ce que nous portons. Donc c'est intéressant, quand on a une responsabilité, du coup les projecteurs sont braqués sur nous et ça peut faire en tout cas une certaine on montre davantage ce que l'on est, parce que ces angoisses, ces stress, voire ces incompétences, et donc c'est l'occasion d'un travail sur soi-même et le fait d'être accompagné. Ça, je trouve qu'aujourd'hui on est à beaucoup plus qu'auparavant, le désir d'accompagner les dirigeants d'entreprise, ceux qui ont des responsabilités, par un coaching, par etc., un suivi qui fait que la personne peut avoir des pistes ou un lieu pour exprimer ce qui peut être ses propres difficultés comme exerçant sa comme responsable d'un service, d'une entreprise, que sais-je. Donc vous voyez, management par le stress, management par la confiance. Et je pense que c'est aussi deux formes de management qui sont assez... Et ce qui fait aussi, je vous dis ça, parce que dans le choix que vous faites, peut-être certains d'entre vous, vous réfléchissez à une réorientation professionnelle, par exemple. Eh bien, posez-vous la question. Déjà, qu'est-ce que vous voulez vivre comme style de management ? Et je trouve que votre génération, beaucoup plus que ma génération, votre génération se pose beaucoup plus cette question-là sur le style de management. Moi, j'ai 63 ans, je suis commencé dans les années 80 à travailler. On travaillait, quoi. On ne se posait pas 40 questions, et peut-être pas assez, d'où les dérives qu'on a pu... Mais vous vous posez beaucoup plus de questions. La question de la qualité de la relation dans le monde professionnel, pour vous, est un vrai sujet. Et vous êtes prêt à laisser un travail juste parce que, ou à prendre un travail parce que le rapport avec le supérieur hiérarchique vous convient pas ou vous convient. Et dans l'entretien d'embauche, c'est toujours intéressant de questionner. Je lisais un article de personnes qui, en plein milieu d'entretien d'embauche, se sont levées et disent, si c'est comme ça que vous allez me traiter, je vous dis au revoir. Ils ont fin d'entretien. Ils sont partis d'elles-mêmes. Ils disent, c'est pas ça que je veux vivre avec un responsable. Parce que, évidemment, l'entretien d'embauche montre, même s'ils sont tous gentils, etc., etc., ils essaient de tamadouer pour avoir des gens de compétences, etc., mais montre aussi qui est la personne, celui d'en face, qu'est-ce que c'est. Donc, d'être attentif, si dans ce cœur de l'entretien, vous sentez déjà des formes de tension, voire une forme de manque de suspicion, etc., évidemment, soyez très attentif à ça. Et je pense que c'est important, parce que le travail, vous y consacrez plus de temps qu'à votre conjoint, par exemple, ou votre amoureux, votre amoureuse. Voilà. Donc, le travail, c'est quelque chose qui va prendre tellement de temps, d'où l'importance d'avoir une qualité de relation Voilà. Mais n'attendons pas aussi, tiens, juste un point, n'attendons pas du travail que, ce qu'il ne peut pas donner. Le travail, la vie professionnelle n'est pas là pour répondre à toutes mes attentes. C'est un monde, comme nous-mêmes, qui est marqué par le péché originel, évidemment, et ses conséquences. Dans le monde professionnel, par la blessure de... la volonté de dominer, les trois formes de domination, des relations toxiques, etc., etc. Je pense que c'est important de rappeler que le travail est marqué par ça. Donc, n'attendons pas... Et d'autant plus, si vous êtes dans un travail vocation. Warning. Moi, je allumais tout de suite les warnings, parce que travail vocation, qu'est-ce que c'est un travail vocation? L'enseignement, c'est une vocation, la santé, c'est une vocation. Ou vous travaillez pour des ONG, ou vous travaillez pour l'Église, c'est pas plus simple de travailler dans l'Église qu'ailleurs, etc., etc. Donc, on dit, ça va être super, parce qu'on est dans une association, on est dans une ONG, on est dans un lieu d'Église, etc. Non, c'est marqué aussi par le péché originel, par la compétition, les blessures des uns et des autres qui ressortent à l'intérieur même de l'exercice de leur fonction. Donc, je pense que c'est important d'être attentif à la qualité de relation. Et la période d'essai, c'est... Parce qu'on le voit beaucoup comme le nouveau salarié qui est à l'essai. Moi, je dis que la période d'essai, c'est le responsable qui est à l'essai. C'est-à-dire, vous voyez, vous, si ça, cette manière d'exercer la responsabilité vous convient. Alors c'est toujours bien d'avoir un plan B si ça vous convient pas, parce que bon, voilà, il faut aussi vivre, il faut payer ses factures, vous voulez être autonome financièrement, et c'est tout à fait normal à vos âges. Mais soyez attentifs, il y a la qualité du travail, est-ce que vous apprenez quelque chose, est-ce que c'est intéressant comme travail, et puis est-ce que la qualité du management vous paraît bien? Et soyez attentifs. Et si vous dites à quoi vous allez être attentif, etc., n'hésitez pas à le dire même dans l'entretien d'embauche. Pour moi, la qualité. Là aussi, n'attendons pas la personne parfaite. C'est un peu attention aux excès. Donc, les manières d'exercer le management. Mais un point dont j'aimerais parler, c'est peut-être vous en avez. On connaît moins le mot est peut-être un peu compliqué, mais ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est dans la doctrine sociale de l'Église. Vous avez 4 ou 5 principes de base. C'est quoi la doctrine sociale de l'Église? C'est-à-dire la manière dont l'Évangile est appliqué aux réalités visibles. Hein, c'est pas la manière dont l'Évangile est appliqué aux réalités célestes, mais là, visible, que ce soit la famille, le travail, l'environnement, etc., etc. C'est tout ce qui est des réalités visibles. Comment faire que l'Évangile... Et donc, parmi les principes de subsidiarité, qui est intéressant, qui est intégré dans la Constitution européenne. La subsidiarité, c'est un principe d'aide, de suppléance. C'est-à-dire que si... si une réalité, par exemple, on va prendre l'Union européenne, une commune, le grand canal Seine-Nord, par exemple, qui est en train d'être fait là, qui est un projet européen, on dit mais pourquoi c'est un projet européen? Parce que une commune, il traverse la commune où nous sommes. C'est une petite commune de 1200 habitants. Il était hors de question qu'une commune se laisse dans... Donc, elle passe à l'étape d'au-dessus, qui est la région. La région dit non, nous, ça nous dépasse. Qui passe à l'étape d'au-dessus, qui est aussi l'Europe. C'est-à-dire que c'est de façon ascendante ou descendante. C'est-à-dire que il y a une forme dans le principe de subsidiarité, de suppléance. On supplée quand un niveau n'arrive pas à exercer sa responsabilité. Il y a une forme de suppléance. Le niveau au-dessus... va essayer de voir est-ce qu'il peut pas aider, hein, typiquement entre les réalités d'État et des communes, etc. Bon, et donc la subsidiarité, ça c'est ce qu'on appelle la subsidiarité montante, c'est-à-dire que là j'arrive à mon niveau, au maximum de mon niveau de compétence, est-ce que le niveau d'au-dessus peut pas prendre, donc suppléer à une formation, par exemple, un travail pour lequel je n'ai pas de formation. Donc c'est cette question de suppléance et donc de... Mais aussi, la subsidiarité, elle est descendante. C'est-à-dire que je vais donner à l'autre toutes les possibilités d'exercer ses charismes. Je vais mettre au centre que la personne puisse donner vraiment sa mesure. et j'irai jusqu'au bout de ce qu'elle peut donner. Ce n'est pas juste la délégation. Vous voyez, la subsidiarité, on confond subsidiarité et délégation. Le niveau d'au-dessus fasse tout ce qu'il peut faire, en fonction de son. Et ensuite, on montera, etc. etc. Donc, c'est tout ça. Je vous donne un exemple que je me rappelle, j'ai vécu en communauté, etc. Bon, on avait un frère, un père qui était assez maintenant décédé et âgé, et qui voulait aider à la vaisselle. Et donc, des frères plus zélés qu'éclairés. Disait, mon père, allez vous reposer, etc. Non, et lui, c'était sa participation. Donc, lui, pour le moment, il avait de l'arthrose, etc., ses doigts déformés, il avait peur de faire tomber ça, l'assiette, etc. Mais pour le moment, il pouvait. Puis quand il n'a plus pu. La subsidiarité, c'est de laisser à ce père-là la capacité d'exercer toute sa mesure. Là, c'était participer à la vie de l'abbaye, participer avec cette manière-là de faire. Oui, c'est ça, c'est la subsidiarité qui fait que on part des capacités de chacun, on va jusqu'au bout des capacités, et ensuite on monte. Vous voyez, donc et aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que ça évite la concentration des pouvoirs. Et je trouve ça assez intéressant, cette subsidiarité, parce que ça installe une confiance, un respect du travail de chacun, en particulier des plus faibles. Une solidarité entre les niveaux de décision. Voilà, c'est en tout cas bien souvent cette question de la subsidiarité, elle est pas au rendez-vous parce que où il y a quelqu'un qui veut concentrer trop de pouvoir, par exemple l'abus de pouvoir, où il y a des personnes qui n'ont pas les compétences et exercent une mission sans avoir la compétence et la formation. Donc c'est deux manières de blesser la subsidiarité. Donc c'est questionnez-vous dans votre, j'imagine, ce qu'on est responsable d'une classe, par exemple, on peut donner des petites tâches aux enfants, mais justement, la pédagogie consiste à leur donner des choses à la mesure de leur âge pour qu'ils puissent faire ceci, faire cela, et ranger la classe, bref, des petites responsabilités, et dans la famille aussi. Vous voyez, donc, je trouve que c'est vraiment partir du bas de la personne. Et respecter, parce que si celui de dessus fait tout ce que peut, parce que bien sûr, un adulte pourra faire tout ce que fait l'enfant, par définition, mais en termes de pédagogie, c'est zéro. Donc, tout ce que peut faire l'enfant, qu'il le fait jusqu'à la limite de ses forces physiques, de sa formation, de son âge, etc., qu'il aille jusqu'au bout, et ensuite, l'adulte prend le relais, supplée. Et pour passer au niveau d'au-dessus. Donc, tout ça intéressant, la question de la subsidiarité, je trouve, ça permet de donner aux personnes peut-être plus fragiles, au niveau le plus modeste, donner sa place, lui donner ce mot niveau modeste a aussi sa capacité, a aussi sa place dans l'entreprise, a aussi ce qui veut dire, et ce qui fait que quand le niveau modeste a sa place dans l'entreprise, ceux qui ne sont pas dans ce niveau-là, qui ont un niveau de formation supérieur, se disent, je serai peut-être aussi respecté quand je serai dans une attitude de vulnérabilité, que ce soit la santé, que ce soit pour X raisons, parce que je vois qu'on arrive aussi à respecter des personnes qui sont dans un état de plus grande vulnérabilité. On les tient en compte dans le monde professionnel. Par exemple, on a beaucoup à cœur à l'abbaye, où on a un chantier d'insertion, de donner une place aux personnes qui sont sur le bord du chemin. Vous voyez, donc, et aujourd'hui, de plus en plus, et on a mis ça dans les contrats qu'on a signés avec les entreprises pour la restauration, que ces entreprises prennent un certain nombre d'heures de personnes qui sont... Alors c'est vrai que ça les... Parce que tout le monde veut un maçon formé, compétent, oui d'accord, mais il ne sera pas en insertion, celui-là, par définition. Du coup, c'est quelqu'un qui est sur la reprise de justice, quelqu'un qui était 2 ans au chômage, il y a des critères de sélection pour l'insertion. Donc forcément, je trouve que quand on donne une possibilité à quelqu'un de plus fragile de développer ses lui donne une place, en fait, parce que le travail, c'est donner une place dans une société, c'est très réconfortant pour ceux d'au-dessus. Parce que quand je me retrouverai, moi, dans une situation fragile, on pourra aussi me donner une place, potentiellement. Parce que je vois que c'est un esprit d'entreprise. Maintenant, si dès que vous voyez qu'une entreprise, voilà, les personnes sont virées comme ça, sans respect, parce que nous, on a des enfants, mais je vois dans des pays anglo-saxons, je partageais avec un jeune professionnel hier, c'est là, du jour au matin, prenez votre carton, partez, c'est fini. Et vous ne passez pas, vous ne saluez pas vos collègues, vous descendez par l'escalier, vous ne prenez même pas l'ascenseur. Et vous avez des bodyguards qui vous accompagnent et qui vont. Mais pour moi, c'est hallucinant, un truc comme ça. Pour moi, c'est hallucinant. Donc, c'est un manque de respect, quoi. Donc, je trouve ça intéressant, cette question. Intéressez-vous la subsidiarité dans la famille, par exemple, la subsidiarité dans l'éducation. C'est vraiment un principe de la doctrine sociale de l'Église et qui, je trouve, qui est vraiment de solidarité, de respecter toute la capacité de celui qui est le plus faible et lui donner toute sa... qu'il puisse dire, aller jusqu'au bout de son charisme, de ses talents, quoi. Donc, un autre point, c'est la question, le rôle de l'autorité dans au travail, hein. L'autorité a cette vocation de discerner un cap, donner une vision, fixer les règles, cadre le poste, hein, travaille au bien commun, à la communion, hein, au respect du principe de subsidiarité, corrige, accompagne, encourage, reconnaît les dons, invite au dépassement de soi-même, sécurise, remet dans la finalité et endosse aussi l'échec et laisse la place à l'erreur. Je trouve ça important, une autorité qui s'exerce comme ça, on sent qu'il y a une maturité et qu'il y a un respect des personnes. Alors, pas toujours la même erreur, hein, c'était la phrase d'Henry Ford qui disait « J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais j'en fais jamais deux fois les mêmes. » Mais voilà, il y a des erreurs. Mais on peut laisser la place à l'erreur. On peut laisser... Ben, c'est important de laisser la place à l'erreur parce que c'est juste laisser la place à ce qui est humain. Alors, est-ce que la personne n'est pas à sa place, n'a pas besoin d'une formation aussi. Mais le fait de sécuriser l'autre et le fait de le remettre dans... Le rôle de l'autorité, c'est remettre le cap sur la finalité. C'est vers quel objectif on veut, redonner la vision. Et aujourd'hui, et la vision n'est pas que monétaire. La vision n'est pas que monétaire, c'est une partie, parce qu'évidemment, pour ce qui est des entreprises, hein, c'est différent pour les services publics, mais pour ce qui est des entreprises, évidemment, sans bénéfice, c'est impossible d'aller plus loin, de se projeter, de réfléchir à un développement. Mais ne prendre que ce critère-là, c'est voir vraiment par le petit bout de la lorgnette, parce que c'est pas le seul critère. C'est le premier, c'est même pas le premier, c'est un des critères. Mais c'est loin d'être le seul ni le premier, hein, la question de l'argent. Mais voilà, ça interroge aussi, c'est pour ça que d'où c'est important que vous puissiez devenir très riche, par exemple. Moi, je vous souhaite de devenir très riche de façon à avoir des entreprises, à gouverner et à mettre en application la doctrine sociale de l'Église. C'est de façon à se dire, ben voilà, l'argent donne un pouvoir, ben le fait d'avoir un pouvoir peut aussi servir à faire le bien. Ça fait, ben donc, je pense que, on va voir pour l'ambition, mais je pense que c'est un peu dans la même lignée. C'est, je peux, plus j'ai de capacité d'agir, plus j'ai de capacité de mettre, plus je peux faire du bien. Vous voyez, plus j'ai de responsabilité, plus je peux faire du bien. Hein, donc c'est un point qui est donc le rôle de l'autorité dans le monde professionnel qui est un rôle vraiment vraiment important. Donc, mais aussi c'est important de détecter, contrecarrer les abus dans l'autorité au travail, les manques de clarté dans la définition de poste, dans l'organigramme, l'absence de limites, culpabilisation, manipulation, manque de distance manager-manager. Jouer sur les affects, mélanger les genres, manipulation, culpabilisation, communication indirecte, abus de pouvoir, diviser pour régner. Et être un bon professionnel, demander des rencontres directes, c'est ce qui va permettre en tout cas de venir corriger. Vous pouvez parler... Vous pouvez faire des remarques parce que vous êtes, imaginons que vous soyez un commercial, vous remplissez vos objectifs. Mais si vous demandez une modification dans l'entreprise ou dans l'organisation de votre service et vous ne remplissez pas vos objectifs, évidemment vous êtes inaudible. Mais un bon professionnel, soyez des bons professionnels. Vraiment, je veux dire, un bon professionnel, c'est quelqu'un qui vraiment est compétent. Le fait d'être compétent vous donne aussi une autorité. Le fait d'être compétent dans votre mission, dans votre propre job, vous permet de dire, en fait, d'avoir une parole, et une parole qui compte. Et je trouve que, comme chrétien, on a l'occasion, comme ce soir, mais certainement à d'autres occasions, vous l'avez eu de la possibilité de le faire, on a l'occasion de réfléchir aussi. On est mieux placé que d'autres. Parce que vous avez une formation, vous avez, beaucoup n'ont pas de formation, n'ont pas de, sur le sens du travail, de la responsabilité. Vous êtes amenés par les groupes, les aumôneries étudiants, etc., à avoir travaillé des thèmes, à avoir réfléchi ensemble avec, le parcours Zaché de la communauté Emmanuel qui parle de justement cette question du travail et la place de l'évangile dans le travail. Je trouve ça très intéressant parce que ça permet justement de, vous avez, comme disciple de Jésus, vraiment plus de capacité parce que vous avez eu un habitus de réflexion. Vous voyez, je pense que c'est sur ce qu'est la vie professionnelle, sur ce qu'est la manière d'exercer. Donc, je pense que pour contrecarrer les abus d'autorité ou les déviances de l'exercice de l'autorité dans le monde professionnel, rien de tel que d'être un bon pro, de quelqu'un qui n'a pas peur de son supérieur, ouais, ça c'est important, qui demandera des rencontres directes, hein, ça, pour relire sa définition de poste, objectiver des remarques, hein, et surtout, je pense que ce qui aidera beaucoup, renoncer à plaire. Le fait de renoncer à plaire, c'est-à-dire de vivre par procuration dans le regard de vos supérieurs. Ça, c'est une plaie. Plaire, c'est une plaie. Parce que précisément, le fait de renoncer à plaire vous laissera une liberté intérieure. Vous voyez, et parce que vous serez plus dans une quête d'approbation, mais que donc ça revisite votre confiance en vous. Où est-ce que vous en êtes de votre confiance en vous? Et la bonne capacité professionnelle vous donne une confiance en vous. Il y a une légitime confiance en soi qui n'est pas orgueil. Et c'est là aussi parfois le logiciel catho nous tend des pièges. Dans le sens où on pense que être confiant en soi, c'est être orgueilleux. Non. Il y a une légitime confiance en toi. Il y a une légitime fierté de ce que l'on fait. Simplement qu'on remet, quand on a cette dimension de vie de prière, etc., qu'on voit comme une grâce qu'on a reçue. Et je pense que le fait, vous-même, d'avoir une confiance en vous, de renoncer à plaire, de renoncer à être sous le regard de l'autre, je pense que c'est quelque chose qui est important, qui permet de... une liberté intérieure, vous voyez, ça vous donne une liberté, mais pour la vie professionnelle, mais de façon générale. Hein, vous n'êtes pas ce que vous êtes dans le regard des autres. Vous êtes ce que vous êtes vraiment dans le regard de Dieu, hein. Puis deuxièmement, dans cette confiance que les charismes que le Seigneur a déposés dans votre cœur. C'est surtout ça, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est avoir une légitime confiance en soi vous aidera pour beaucoup de choses. Hein, et dire aussi, ne pas hésiter à dire, là je ne suis pas compétent. Moi je me méfie des gens qui sont compétents partout. Alors, il y a des warnings qui s'allument quand je ne sais pas quoi, quelqu'un me dit, non, mais ça je sais faire, non, ça je sais faire. À mon avis, c'est fini, toi tu ne sais rien faire parce que tu sais faire des choses extrêmement différentes alors que ce n'est pas dans les mêmes corps de métier, ce n'est pas la même émission, etc. Voilà, je me méfie beaucoup de ça. Mais bref, donc, de dire aussi les limites de votre compétence. Hein, de ne pas avoir peur de dire ça. Non, ça, là-dessus, là, je ne suis pas pertinent. D'avoir cette... qui est aussi un signe d'humilité. De reconnaître sa limite. Alors, soit vous demandez une formation pour devenir pertinent, etc. Mais il n'y a rien de pire que la personne qui est dans un poste, hein, le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est une personne qui est dans un poste et qui est persuadée, en fait, que dans ce poste-là, cette personne-là, elle se sent comme imposteur. Parce que, alors, à tort ou à raison, parce que ça peut être à tort, parce qu'en fait, elle a les compétences, mais elle n'a pas la suffisante confiance en elle. Ou peut-être à raison, elle n'a pas la formation suffisante, et donc c'est une forme d'imposture que d'occuper une responsabilité alors que je n'ai pas les compétences nécessaires. Donc, mais il y a d'autres qui ont les compétences, mais c'est juste un problème intérieur d'accueil de soi-même, de confiance en soi, de valorisation, etc., de soi-même, qui est au rendez-vous. C'est pas juste un problème de compétences, c'est beaucoup plus un regard sur soi-même. Et donc, évidemment, là, ce que c'est intéressant dans le monde professionnel, c'est que ça vous fait travailler, toute relation vous fait travailler sur vous-même. On peut parler des relations amoureuses, etc., mais les relations professionnelles vous font travailler sur vous-même, c'est évident. Une relation qui vous coûte, qu'est-ce qu'elle dit de vous-même ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Peut-être que l'autre a des problèmes, etc. Peut-être, mais qu'est-ce qu'elle dit de vous-même ? Posez-vous la question, en quoi ça m'emmène à un travail, à une réforme de moi-même ? Une relation qui me coûte. Même si l'autre, évidemment, peut avoir aussi sa part de responsabilité. Mais voilà, je trouve que c'est un lieu de progression. C'est pour ça, la vie professionnelle, je suis tellement... tellement persuadé que c'est un lieu vraiment de progression humaine et de progression spirituelle quand on a la foi, parce que du coup on confie au Seigneur ses propres doutes, on n'est pas laissé juste à sa psychologie plus ou moins équilibrée, on a un soutien qui vient d'ailleurs, quoi. Donc, c'est une question-là d'être un beau pour contrecarrer les abus cette autorité, je pense que et puis ne pas hésiter à dire non. Je me rappelle un évêque qui disait à ses prêtres, priez Notre-Dame du non. Hein, il y a Notre-Dame du oui, Marie qui a dit oui, etc. Bon, ok, donc du coup, quand tu es prêtre, tu as 40 sollicitations minutes. Voilà, donc du coup, tu te dis, bon, mais lui disait, dites non. Voilà, ces sollicitations, vous dites non. Ça, c'est pas... Et je pense, qui se positionne les autres. Punto. Qui se positionne les autres. Si je ne peux pas, je suis dit non, ou donnez-moi des priorités. Vous pouvez dire à votre responsable hiérarchique, donnez-moi des priorités. Vous ne pouvez pas me demander 10 choses prioritaires dans la journée. Ce n'est pas possible. Alors, donc, je pense que c'est important de pouvoir travailler là-dessus, parce que c'est le fait de dire non, ça inspire confiance quand on est manager, parce que quand quelqu'un dit non, on dit ok. C'est-à-dire que quand il dira oui, il pourra aller jusqu'au bout de sa mission. Alors que s'il dit oui à tout et qu'en fait il n'arrive pas, bon, donc bon, je pense que vous avez compris la question de la confiance, bonne confiance en soi, marquer l'autorité à l'autorité, ses limites aussi, dire les choses qui pour ne pas se laisser humilier, bon, c'est ça, je pense que c'est ne pas fuir l'autorité. Il y a des autorités qui sont toxiques, parce qu'il y a des personnes qui sont toxiques. L'autorité manifeste la personne. Des personnes comme ça, eh bien, il faut les fuir. Vous ne pouvez pas vous laisser détruire dans une relation. Si vous voyez qu'une relation vous détruit, qu'une vie, un poste, songez clairement à partir. Vous pouvez pas, tout ce qui est burn-out, etc., ça vient de ça. C'est des personnes qui, pourtant, il y a eu des alarmes, il y a eu même le corps lui-même a tiré la sonnette d'alarme, etc. Et puis, elle n'a pas été entendue. Hein, et on est allé, puis finalement, jusqu'à avoir une dépression, ça. Donc, je pense que soyez attentifs de vous respecter et de faire qu'on vous respecte dans votre vie professionnelle, ce respect, de même de respecter l'autorité, mais ce respect mutuel va aussi dans la détection de personnes qui potentiellement pourraient être toxiques et desquelles vous devez vous éloigner. Et si c'est votre supérieur hiérarchique, etc., vous essayez jusqu'à combien, ne vous laissez pas détruire. C'est pas ça, c'est pas la vocation, c'est pas votre. Il y a quelque chose qui a changé radicalement. Donc je pense que. Réfléchir, voilà, qu'est-ce qui me conviendrait. D'où l'importance du management. Et dont les entreprises, je pense, vous me direz, prennent de plus en plus conscience, me semble-t-il en tout cas. Hein, parce que je vois bien que s'ils veulent capter les meilleurs talents, Ce n'est pas juste une question de salaire. C'est une question de salaire qui est une reconnaissance, mais c'est une question de climat. Et en plus de sens donné au travail. Hein, on voit bien que votre génération est très sensible à cette question-là, et à juste titre. À juste titre, vous voyez. Donc, alors, en quoi le management peut être une bonne nouvelle? Une bonne nouvelle, je pense, comme junior, c'est-à-dire celui qui démarre dans sa vie professionnelle, donc être un bon professionnel, avoir un regard de foi sur son manager, toute autorité vient de Dieu, dit saint Paul, hein, aux Romains, hein, prier pour son N+1, oui. Prier pour soi-même plus loin, sa conversion aussi, pourquoi pas. Les difficultés de mon rapport à l'autorité me font grandir, source de conversion, d'abord en moi. Exercer le pardon aussi, hein, je pense que ça peut être, on n'en parle pas beaucoup dans l'entreprise, mais ça pourrait être une bonne chose. Encourager la personne qui est, en fait, la personne qui est en responsabilité a besoin d'être encouragée. Ça peut paraître étonnant. Mais c'est souvent le cas. Donc, encourager la personne en responsabilité, quand vous êtes, vous, dépendant, hein, encourager dans lui, en elle, le bien, le beau, le vrai, hein, fuir la critique qui ne construit pas, là, soyez vraiment attentifs là-dessus. Je pense, c'est là où je trouve que on distingue quelqu'un qui est disciple de Jésus, de quelqu'un, il fuit la critique. Et ça, là-dessus, pas de quartier. C'est-à-dire que là-dessus, parce que la machine à café, on est tous autour de la machine à café et on bim, 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 on explose le N+1, non, c'est complètement contre-productif. Vous voyez, donc, soyez, c'est là où vous allez vous démarquer. Vous allez vous démarquer en étant bon, professionnellement, comme quand vous n'avez pas de responsabilité, quand vous êtes junior, quand vous êtes au début de votre vie professionnelle. Et vous allez vous démarquer en ne vous mettant pas, en ne criant pas avec les loups. Parce que vous savez très bien que quand vous allez voir tel collègue, vous savez très bien comment ça va terminer. Oui, donc je pense que c'est pas un service de lui rendre ni de vous rendre à vous, parce que enfin, ça peut être vrai, hein, les critiques sont parfois vraies, mais d'aller voir les personnes, de fuir. De dire, ben, un peu comme Jésus disait, ben, voilà, être rusé comme des serpents et simple comme des colombes. Voilà, dans le monde professionnel, c'est un monde marqué par le péché, donc aussi par la blessure. C'est un monde marqué par les tensions, les compétitions, etc. Il y a une forme d'être rusé comme des serpents et simple comme des colombes. Je trouve que c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et de dire que c'est aussi de dépendre, de ne pas être en responsabilité, c'est aussi une école de sainteté. Dans le début de cette sanctification par le travail, je trouve qu'il y a quelque chose qui est une vraie réalité. Donc, il y a un vrai. Jésus est un homme au travail. Jésus est un homme au travail. C'est intéressant de voir ça. Hein, donc, Jésus était sous la responsabilité de son Père, etc. Donc, voilà, nous croyons qu'il est vrai Dieu, vrai homme. Voilà, donc, il a exercé l'activité professionnelle. Et nous croyons, c'est intéressant, dans la Révélation, dans l'Ancien Testament, Dieu nous est, la cosmogonie, c'est-à-dire l'explication du monde, est présentée comme un Dieu qui travaille. Alors, quand vous regardez toutes les cosmogonies dans les religions asiatiques ou africaines ou l'Amérique latine, etc., bon, amazonienne, bon, un peu les explications du monde, c'est assez l'originalité de la Bible, c'est de présenter un Dieu qui est au travail et qui est au repos. Hein, le septième jour, voilà, il se reposa de toute son œuvre. Mais c'est intéressant de voir que le travail, avoir une expérience aussi spirituelle, hein, est liée à ça, et le repos, évidemment, l'expérience spirituelle. Maintenant, quel est le lieu de sainteté aussi pour quand vous êtes en responsabilité? Parce que certains nombre d'entre vous sont déjà en responsabilité, hein, à Nîmes. D'abord, être aussi un bon professionnel, c'est-à-dire que vous soyez dépendant ou que vous soyez en responsabilité, être bon professionnel n'est pas une option. C'est-à-dire que vraiment, vous êtes, encore une fois, vous serez écouté si vous êtes les meilleurs. Punto. C'est-à-dire, si vraiment vous faites bien votre job, si vraiment, là vous serez écouté. Là on verra. Là, et plus ça va, en tout cas quand on grimpe dans la dimension, dans la hiérarchie, plus on grimpe dans la hiérarchie, plus c'est la qualité humaine qui est valorisée. La qualité technique, on suppose qu'elle est au rendez-vous dans la profession concernée. Mais plus on grimpe dans la hiérarchie, en tout cas quand c'est bien fait, plus c'est l'humanité, l'humain qui est valorisé. Donc c'est intéressant de dire, d'abord soyez des bons professionnels si vous êtes en responsabilité, c'est-à-dire une personne qui est unifiée, de prier aussi pour les personnes dont vous avez la responsabilité, que ce soit dans le monde d'entreprise, mais aussi, je pense à ceux et celles qui sont dans le monde de l'éducation, de porter dans la prière vos élèves, ou le monde de la santé, qui travaille dans les services publics ou assimilés, etc. Se rappeler que si toute autorité vient de Dieu, je dois rendre des comptes de l'autorité au Seigneur. C'est important, c'est lui en rendre compte. L'autorité qui est un service, c'est ça la manière, nous, dont on voit l'autorité comme un service. C'est très différent des autres. On sert Jésus, on est serviteur en assumant des responsabilités. Serviteur du bien commun. Je pense que ça passera par la solitude, par des moments de croix, etc., évidemment. Savoir demander pardon, accepter de ne pas être le manager parfait, si vous êtes en responsabilité, libre du regard des autres, prier pour CN-1, unir distance et empathie, encourager, rentrer dans la confiance et la foi par rapport à sa fonction. Le pire ennemi du manager, c'est la peur. Rien de pire, quelqu'un qui est responsable et qui a peur de ses subordonnés. Il y en a beaucoup. Du coup, c'est des personnes anxieuses en général, angoissées, stressées de la vie, très mauvais manager. Du coup, c'est pas la bonne personne au bon endroit. Il faut qu'il change. Et donc, il faut aller au N+2, dire il faut le changer. Et ensuite, le pire, c'est la peur. Imiter Jésus, il est un rocher, un berger, un vigneron, etc. Viser la fécondité pour l'entreprise, le milieu professionnel où vous êtes. Aimer les personnes. J'aimais bien le témoignage que j'avais reçu comme ça d'un manager que j'ai des grosses responsabilités dans le. Il dit, moi j'aime les personnes qui me sont confiées, de les aimer. Mais ça se sent quand on leur dit pas, parce que évidemment, ça peut être un peu ambigu, mais on sent quand la personne aime, il y a une relation d'affection, il y a aimer les personnes et prier pour les personnes dont on a la charge. Avec aimer les personnes dont il a la charge, jusqu'à savoir leur dire que leur place n'est pas là, aussi. Donc, quand une personne n'est pas à sa place, lui dire. Encore une fois, on ne rend pas service à quelqu'un en le maintenant dans une place à laquelle il ne peut pas donner sa mesure, et empêche les autres de la donner. Donc, être manager demande assurance, exigence, humilité, une conversion permanente. Les défauts et les qualités sont mis en lumière. Le manager est une école de sainteté, un bon manager peut faire beaucoup de bien, évidemment. Dès que vous avez des responsabilités, pensez que vous pouvez faire beaucoup de bien. Plaidoyer pour la belle ambition, qui était le titre de notre rencontre de ce soir. L'évangile des talents. L'évangile des talents, vous le connaissez très bien, répondre à un appel, faire confiance. Désirer faire le bien. Et donc, désirer, c'est ce qu'on appelle la magnanimité. La magnanimité, je ne sais pas si vous voyez bien, magna anima en latin, c'est-à-dire avoir la grandeur d'âme. Avoir la grandeur d'âme. Donc, désirer une grandeur d'âme n'est pas incompatible avec l'humilité. Et ça, faut bien se le mettre dans le crâne. La grandeur d'âme n'est pas incompatible avec l'humilité. C'est au contraire un signe d'humilité de désirer des grandes choses. Quand vous désirez faire le bien, quand vous désirez le beau, le bien, le vrai, vous désirez des grandes choses pour Dieu, pour vos frères, etc., pour vous-même, c'est aussi une humilité. À la différence de la pusillanimité, vous savez, la pusillanimité, qui est l'inverse, être pusillanime, c'est « excusez-moi de vous demander pardon ». Excusez-moi de vous demander pardon, je reste dans mon petit coin. Non, surtout pas moi, pensez pas à moi, etc. Fausse humilité. C'est fausse humilité. Donc, je trouve ça intéressant le plaidoyer pour la belle ambition. Il y a tant de bien à faire. Désirer de prendre, désirer des responsabilités. Désirer d'assumer quand vous envoyez. Parce que vous voyez qu'en fonction de. Et je pense que c'est. Et en particulier, vous mesdemoiselles, hein, mesdames, qui souvent vous auto-inhibez dans la prise de responsabilité. Il n'y a pas assez de femmes, je trouve. Et donc, je pense que. On voit bien que. Aujourd'hui, ça, c'est important, si on croit que hommes et femmes, c'est des manières d'être au monde différentes, le fait d'exercer comme homme et comme femme, voilà, c'est des manières d'exercer différentes la responsabilité, et ne vous interdisez pas, alors il faut voir comment ça peut se... C'est vrai que la femme est plus contrainte par rapport à la vie familiale, etc., mais une charge mentale plus importante, mais ne vous interdisez pas de prendre des responsabilités, de désirer des responsabilités dans le monde de l'entreprise, dans le monde professionnel. Parce que, encore une fois, il y a une manière d'être particulière. Donc, écoutez vos grands désirs, hein, méditez sur l'exemple de Jésus. Hein, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir, hein, donc, et donner ma vie en rançon pour la multitude. Hein, et je me rappelle, j'avais marqué, tiens, c'est le François Gabart, ça me rappelle, 29 ans, vainqueur 2013 du Vendée Globe, qui disait la chose suivante: je ne pensais pas avoir cette énergie en moi, je ne ferais jamais le Vendée Globe et si je n'avais pas eu la foi. Voilà, donc c'est un homme, un garçon qui, je ne sais pas s'il est reparti après, avec, mais voilà, il a eu à un moment donné une confiance, un acte de confiance qui lui a fait. En lui, qui une confiance, qu'il avait les compétences, et une confiance aussi qui lui venait d'ailleurs. Voilà, mes amis, ce que je voulais vous dire donc par rapport à ce plaidoyer pour la belle ambition. Avez-vous des questions ? Tous en même temps, parce que là, ce serait embêtant. Personne n'a de questions sur ce désir de responsabilité, sur... Oui, allez-y. Est-ce que pas trop optimiste? Oui. Bah, c'est un milieu qui est marqué par le péché. C'est un milieu où il y a des tensions, évidemment. Alors, est-ce qu'optimiste, il faut voir. Mais le fait, peut-être aussi, je donne aussi le goût, donc c'est mon rôle comme prédicateur, mais de se dire que vous rentrez dans un milieu qui est fait aussi de tensions, entre autres parce qu'il y a la réalité de l'argent. Que ça, je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer, la réalité de l'argent qui établit la tension, hein, d'où l'importance de désirer d'être riche pour pouvoir faire du bien. Et, mais aussi, je crois que quand on a le pouvoir, qu'on a la capacité de faire le bien, je trouve que ça c'est tout à fait. Il y a beaucoup de choses positives. C'est un lieu de construction de la personne humaine, le travail qui est, ou de destruction de la personne humaine. Ça, c'est sûr. Ça, on voit des personnes qui sont détruites par leur vie professionnelle. Mais voilà, je trouve. Moi, je vous encourage. Vous aurez, ou si ce n'est, vous avez des responsabilités. Donc forcément, vous n'êtes pas au top, vous n'êtes pas le patron des patrons, parce que bon, et même le patron doit répondre à des actionnaires, etc. Donc il faut savoir, plus on monte en responsabilité, plus il faut savoir gérer la tension. Plus il faut, en fait, j'aime bien, c'est cette phrase du général de Villiers qui disait, en fait, un bon chef, c'est celui qui accueille l'angoisse et redonne la confiance. Et je trouve que c'est intéressant, c'est que comme chef, tout le monde vient avec vos problèmes, avec les problèmes. Ah ben, problème de ceci, problème de cela, etc. Et le fait d'être un bon chef, c'est d'accueillir ces tensions, ces angoisses, et de redonner confiance. Donc, voilà, optimiste peut-être, mais posez-vous la question peut-être d'un changement de regard, posez-vous la question de... sachant que ce ne sera pas non plus un monde de bisounours, évidemment, parce qu'il y a des réalités d'argent qui sont entre autres en ligne, et puis des réalités de personnes qui... Mais je me dis souvent, il y a des personnes qui ont des responsabilités et ne devraient pas l'être là, parce qu'elles n'ont pas la... Vous qui avez un cœur généreux, je trouve que ce serait dommage que vous vous priviez de monter en hiérarchie et de laisser d'autres faire qui n'ont pas du tout le même cœur que vous. Oui. Clé pour... Qualité des relations et efficacité. Oui, alors, oui. Parce que évidemment, il y a une efficacité à avoir, parce qu'on vous demande de faire un travail dans un temps, on vous demande d'atteindre des objectifs commerciaux, on vous demande... Bon, maintenant, les problèmes de relations sont la source de l'inefficacité. Beaucoup. Des personnes qui ne s'entendent pas dans un service, qui se critiquent, font valoir leur pouvoir en retenant des informations, par exemple... Évidemment, ça baisse l'efficacité. Donc, moi, je n'opposerai pas les deux. Maintenant, si vous êtes sur un management sur la pression, sur le stress, qui est beaucoup le style de management qu'on voit, bon, donc on vous met ensuite un arrêt de travail, un arrêt pour maladie, pour oui, pour un non, bah, du coup, vous avez tout perdu, quoi. Donc, jusqu'à où vous pouvez... Il y a une efficacité, mais... il faut que cette efficacité, est-ce que la personne est capable de porter ça? D'autant plus que si vous êtes perfectionniste. Si vous êtes perfectionniste et que vous voulez bien faire, etc., vous pouvez vous mettre une pression tellement haute que vous n'arrivez pas, vous laissez déborder par vos tâches, par vos activités. Parce que, voilà, vous en faites peut-être trop aussi, surtout dans le début de la vie professionnelle, on en fait beaucoup pour plaire aussi à son chef, etc. Donc, moi, je crois que c'est possible. Encore une fois, c'est possible qu'on a la bonne personne au bon endroit. Si vous avez la personne qui n'est pas au bon endroit et qui ne... Voilà, elle n'est pas compétente. Encore une fois, laisser une personne qui n'est pas compétente, on lui demande un travail dont on pensait, et puis finalement, elle n'est pas à sa place, ça désorganise tout. Et donc, je pense que, oui, qualité de relation, c'est pas un... C'est aussi, n'oubliez pas d'encourager. Le fait, si vous êtes en responsabilité, d'encourager, de soutenir, de dire, vraiment... C'est ça qui contribue à l'efficacité au travail. Oui, n'opposons pas les choses. Et je pense qu'en France, on n'a pas beaucoup cette culture-là. Je trouve qu'on est plutôt à voilà, mettre une pression, être un peu dur. Bon, peut-être pas qu'en France, hein, mais bon... je me rappelle un patron, mais c'était un pays anglo-saxon, c'est un peu notre style, mais bon, ils vous virent du jour au lendemain. Voilà. Mais ils disent, mais si à 18h vous êtes encore là, c'est que vous n'êtes pas fait pour ce travail. Si vous, à 18h, vous êtes encore là, si vous n'êtes pas fait... Il y a une forme de présentialisme en France, par exemple. À 19h, on ne te tue pas à 19h, on te dit bon après-midi. Non, ben non. Soit on me donne trop de travail pour le temps qui est imparti. Voilà, il faut savoir dire, ben non, là, ce que travaille, c'est trop ce que vous me demandez. Vous voyez, ou alors il faut faire à la louche et puis on n'est pas satisfait de son travail parce qu'en soi-même on a une conscience professionnelle qui fait que. Donc quand je sens que les responsabilités qui me sont données, ben voilà, je suis en retard et je suis bon dans mon travail, bon, c'est ceci de tirer la sonnette d'alarme. Maintenant l'autre il pourra faire ou pas, ensuite bon. D'autres questions, une dernière question peut-être, oui. Oui.
Alors d'une part, c'est vrai que nous cherchons du
C'est vrai. Oui, alors la question, tout le monde a entendu la question. Hein, là, bon, si vous avez, comment conjuguer quand on est croyant, conjuguer le fait d'être croyant et en même temps la question du sens, sachant que de plus en plus, il y a des jobs qui sont juste alimentaires et qui n'offrent pas de sens. Et qu'on voit bien que le monde du travail va vers une perte de sens de beaucoup de choses. Je lis ça à la question précédente, qui a à voir aussi avec la difficulté des relations dans le monde professionnel. Je trouve que c'est quelque chose qui a à voir. Maintenant, le sens... Alors c'est vrai que comme catholique, on a une forme d'idéal, c'est logique, parce qu'on a, on a l'Évangile, on a la figure de Jésus qui est en face de nous, etc., etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Soit c'est vraiment un travail qui où on vous demande, on vous demande pas votre avis, etc. Si vraiment vous sentez vous dépérissez, ben il faut partir. Et il faut partir et essayer de trouver. Et justement, je crois beaucoup que les entreprises qui proposeront un style de management, les entreprises qui proposeront une valeur ajoutée, mais qui n'est pas que financière, mais en termes de sens, évidemment, ces entreprises-là recruteront les meilleurs. Ce sera beaucoup plus efficace. Mais les entreprises qui ne fournissent qu'un travail et ferment là et à pression et on te dit bon après-midi à 19h, bon, évidemment, je n'y trouve absolument pas mon compte. C'est-à-dire qu'il faut essayer de voir autour de vous, pas rester là où vous êtes, et de voir, soit créer votre propre boîte, c'est intéressant, soit aussi de dire, est-ce qu'il n'y a pas d'autres lieux aussi où je peux m'épanouir, où je peux, soit qu'on recrute beaucoup de cadres, beaucoup de personnes, et de dire que pour moi, c'est quelque chose qui est important. Le sens donné de l'entreprise, de mon travail, dans la dimension de l'environnement, la dimension sociale, la dimension du bien commun, c'est une des valeurs qui sont importantes pour moi. Et ça, de le dire aussi dans votre CV. Oui, je pense, le fait de dire dans son CV quelles sont mes valeurs, ça positionne. Celui qui a d'autres valeurs, qui se positionne les autres. N'hésitez pas dans votre CV à dire qui vous êtes. Que ça vous ressemble. Vous n'êtes pas là pour plaire. Vous êtes que dites qui vous êtes et je pense que voilà. Ensuite, ça marche, ça marche pas, mais en tout cas, il ne faut pas hésiter à changer. Et il ne faut pas hésiter à changer. Et quand on part, on dit pourquoi on part. Parce que ça peut faire réfléchir aussi l'entreprise, voilà. Votre mode de management, ce que vous proposez en termes de sens, etc. Parce que ça ne convient pas à une génération. Moi, je me rappelle, c'était à la remise des diplômes de centrale à Nantes ou un truc comme ça. Bon, celui qui était arrivé major de sa promo, etc., commence à prendre le micro, il s'adresse au directeur, il dit « Monsieur le directeur, j'espère jamais vous ressembler. » Bam. Jamais. Être comme vous. Jamais en 4 ans, 5 ans de formation, où on a eu quelque chose sur la protection de l'environnement, sur l'intégration des plus faibles. Jamais en 5 ans de formation, on a eu ceci, on a eu ceci. Et il a fait la liste de ce qu'il n'avait pas eu. Ah oui, la technique, c'est bon, ça. Oui, centrale, c'est bon, c'est les ingénieurs. Mais bon, ok. Mais la valeur ajoutée... Donc, alors évidemment, comme directeur, je me dis qu'il a pris un peu pour son grade, mais ça me l'a fait progresser. C'est que vous avez, et n'hésitez pas d'aller à bout de vos désirs, vous avez des exigences que ma génération n'avait pas, mais je trouve ça beaucoup mieux maintenant. Beaucoup mieux maintenant. Et ma génération a des responsabilités, aura à rendre des comptes, c'est évident. À ne valoriser que l'argent, à ne valoriser que la pression, à ne valoriser, etc., etc. Et évidemment qu'elle aura à rendre des comptes. Oui. Alors voilà, oui, il y a la question de la pénibilité au travail, parce que le travail n'est pas toujours agréable, ça c'est vrai. Le travail n'est pas toujours... Ne demandons pas au travail ce qu'il ne peut pas donner. Ça, c'est un peu ce que vous dites. Demandez pas au travail ce qu'il ne peut pas donner, etc., d'avoir un truc, que ce soit l'extase en permanence. Ben non, ce n'est pas la réalité professionnelle. Mais simplement, posez-vous la question, est-ce que dans l'entre-deux, parce qu'il y a un dîme, parfois c'est difficile, parfois c'est pénible, parfois nous-mêmes on est pénible pour les autres, dans l'entre-deux, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à trouver? Et si vous sentez que, après beaucoup de réflexions, bien vous voyez bien que votre vie professionnelle vous rentrez, vous partez de la boule au ventre de votre domicile pour de votre travail, etc., et que ce n'est jamais... Ça, si vous ne voyez pas de retour, il faut se poser les bonnes questions. Mais ne demandons pas au travail ce qu'il ne peut pas donner. Non, je rejoins. Il n'a pas comblé à toutes nos aspirations.